en gestation.
Oh, merci.
Non, je suis en train de déchirer mon cahier.
Bon, bah c'est parti. Allez-y, on va se battre pour le micro. Bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir ici. Alors, on va parler de jeux de rôle sur cette table ronde. On va aborder une question bon, qui est presque impensif, mais enfin, on va voir. On voudrait aborder la question du MJ. Alors, le MJ, pour ceux qui connaissent, on l'appelle maître de jeu, meneur de jeu. Bon, c'est une entité que les rôlistes rencontrent plus que fréquemment, puisque c'est ce rôle un petit peu particulier, endossé par un des joueurs au cours d'une partie de jeu de rôle. Et on dit traditionnellement qu'il est le garant de l'organisation de la partie, le garant du bon déroulement de la soirée et du jeu. Il est aussi celui qui est le maître de l'univers, éventuellement le maître de l'histoire et du scénario qui va se dérouler pendant la partie. Alors, je les vois déjà discuter. Je pense que mes invités ne vont pas être forcément d'accord avec cette définition que je vous propose, qui est très générique, et encore une fois, que vous avez entendu certainement beaucoup. Alors justement, mes invités, bon, bah, je vais en profiter pour vous les présenter. Alors, totalement à l'extrémité, là-bas, nous avons... Voilà, prends un micro, Vivien.
Bonjour.
Donc, Vivien Féasson, qui est auteur de plusieurs jeux de rôle, Les Errants du Quillo, Perdu sous la pluie, qui est aussi traducteur chez la maison d'édition Sans Détour, podcasteur occasionnel à La Cellule aussi. Ouais. Alors, justement, l'animateur du podcast hebdomadaire de La Cellule, il est juste à côté, c'est Romaric Briand. Donc, Romaric Briand, qui a créé le jeu de rôle Sens.
Bonjour.
Le jeu de plateau Duval, et puis également auteur d'un ouvrage, Le Maelstrom, donc plus récemment, en 2014. À côté, donc, nous avons Manuel Bédoué, donc auteur, alors co-auteur sur La Gamme Oltrée, auteur également de Summer Camp, auteur du jeu de rôle aussi sur les frontières, et puis co-animateur, puisqu'on a beaucoup de podcasteurs avec nous, co-animateur du podcast Ludologie, qui n'est pas hebdomadaire celui-là, mais presque.
Bonjour.
Et puis pour finir, donc, nous avons Olivier Roulier, donc, auteur parmi les auteurs de COPS, des Chroniques des Féales, et puis ancien game designer chez Rackham notamment.
Bonjour.
Bonjour à tous. Alors pour aborder cette question du MJ, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein, plus ou moins violemment. Du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que...
Ça va être violent, on nous passe tout de suite le micro, Vivien, je pense. On va parler de l'explosion du MJ, hein, c'est ça que tu voulais
parler
d'abord.
Ouais, je pense que vous aviez ça un petit peu dans la tête, puisque moi je suis arrivée
en
disant...
Ah non, nous le MJ, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus dans la tête, en fait. Pour nous, il a disparu depuis longtemps, c'est une espèce d'animal mort qu'on ressuscite comme ça pour une petite conférence, quoi, mais... Ça n'existe plus, en fait.
D'accord, donc cet élément central auquel on se rattache, finalement...
Oui, c'est une chimère. Une chimère qui a été probablement inventée par diverses discussions de rôlistes sur forum ou entre nous pour en gros parler du rôle de cette personne qui était l'éminence grise, le gardien des secrets, etc. On a appelé ça globalement un maître de jeu, comme ça on s'est dit qu'on allait lui donner un nom unifié finalement parce qu'il avait des rôles qui étaient globalement identiques à travers différents types de jeux de rôle classiques. Et voilà, avec Vivien à mes côtés, on pense, en tout cas, si on s'en fie à nos derniers articles dans JDRMA, que le MJ va tôt ou tard exploser. Et est-ce que tu veux parler peut-être justement du contenu de ton à ce sujet ?
Vivien.
Il fallait que ça arrive. Alors, moi, j'étais pas forcément dans la. Bon, l'article se voulait un petit peu polémique justement à ce niveau-là. Moi, la question... En fait, je partais d'un certain raisonnement qui ne pouvait qu'aboutir finalement à la nécessaire destruction du MJ parce que finalement, les pouvoirs qu'on lui attribue impliquent nécessairement des problèmes qui ne voient leur résolution que par la disparition finalement de celui qui pose problème, à savoir le MJ lui-même. Voilà, en gros, pour l'instant, en tout cas.
En gros, on est tous d'accord pour dire que tous les jeux de rôle aujourd'hui, on sait... partagent la narration, en fait.
Alors, on va commencer, à mon avis. Le mieux, c'est quand même de faire des sondages pour savoir un peu à qui on parle. Alors, parce qu'on ne vous connaît pas, nous. On pourrait faire un tour de présentation, ce serait long. On va commencer par des questions assez simples. Qui a déjà fait du jeu de rôle ? Voilà, comme ça, on sait qu'on est à peu près tous en bonne compagnie. Qui a déjà été meneur de jeu ?
Ouais, d'accord.
Voilà, c'est
ça. Costaud.
Et qui pense avoir déjà joué à un jeu de rôle sans meneur de jeu ? Vous êtes quand même nombreux, c'est pas
ouais,
mal.
C'est pas mal, ouais.
Et qui pense n'avoir jamais joué à un jeu de rôle sans meneur de jeu, du coup ? Ok, on va vous montrer que vous avez probablement tort, mais on va le faire très gentiment. Alors, une des premières questions qu'on s'était posée, c'était qu'est-ce que ça fait un meneur de jeu ?
Qu'est-ce que ça fait ? Alors, bah, vas-y.
Alors, bah ouais, on va poser des questions, il est gentil. Un meneur de jeu, ça connaît le livre de règles.
Ouais.
On est d'accord ? Ça connaît le livre de règles, ça connaît les règles du jeu. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre, Olivier, tu as une autre suggestion peut-être ? Qu'est-ce que ça fait d'autre un meneur de jeu ?
Non mais, ça c'est la base. C'est même dans les jeux sans MJ, voire même dans les jeux qui ne sont pas des jeux de rôle. Si on prend le meneur de jeu comme une espèce d'instance, il y a celui qui connaît les règles, qui va les présenter aux autres, qui va être le pourvoyeur, voire l'organisateur de la partie. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ça,
non mais c'est pas tout. Ouais. C'est déjà pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a parfois des joueurs qui connaissent mieux le livre de jeu que le meneur de jeu.
Il y a toujours quelqu'un qui va le présenter.
Chieur, on appelle ça le chieur.
Le chieur.
Voilà. Donc un peu comme là, ça. Il existe et il te remet en question constamment, alors que toi, tu as bien bossé ton système, tu as fait ton truc. Il vient te voir en disant non, c'est pas comme ça que ça se passe, je sais, parce que j'ai lu page tant et l'auteur a dit que, etc. Ça arrive constamment. Donc ça veut dire que déjà, ce premier rôle de meneur de jeu qu'on vient de dire, il y a déjà énormément de joueurs autour de table qui le jouent à la place du meneur lui-même, déjà.
Et donc on a un affaiblissement de la position du meneur de jeu à partir du moment où justement un joueur maîtrise mieux le jeu ?
Ah, bah oui. Enfin, à mon avis, si on définit en tout cas le meneur de jeu comme celui qui connaît le mieux le système et l'univers, etc., si on a un joueur qui connaît mieux le système que le meneur de jeu, bah, il perd un peu son statut de maître du jeu. Quand tu demandes, par exemple, dans le sujet de la conférence, qui est le maître du jeu, on a envie de répondre, bah, parfois, justement, c'est pas celui qu'on aura envie d'appeler le maître du jeu. Donc déjà, voilà. Donc déjà, ce rôle-là, on peut le lui retirer. Enfin, en quelque part, il n'en a pas le monopole. Et on va voir que c'est comme ça pour tous les différents types de rôles qu'on lui donne, qu'en fait, il n'en a pas nécessairement le monopole.
Alors souvent, c'est un rôle qui, justement, est défini dans la base du livre de jeu de rôle. Il y est dit, souvent sur la première, deuxième page, que le maître de jeu, celui qui a acheté le jeu, celui qui a le livre entre les mains, va devoir être le garant des règles, etc. Est-ce qu'il y a d'autres rôles qui sont officiellement définis comme ça ?
Si on essaye de lister les attributions classiques, enfin celles qu'on entend, si on réfléchit deux secondes sur les rôles du meneur de jeu, il y a celle de connaître les règles et d'être en quelque sorte un peu l'arbitre. On va voir si ça ne peut pas être mis en question. Il y a celle du... C'est celui qui connaît l'univers et qui, en quelque sorte, assume cette partie-là, l'univers. C'est celui qui amène un scénario, voire qui le connaît à l'avance et qui le propose aux joueurs.
C'est celui qui joue les PNJ et qui décrit les décors.
C'est celui qui assume toutes les fonctions du décor, c'est ça. Donc aussi bien le rôle de chef décorateur que de figurant.
On a aussi un élément qui revient pas mal, c'est celui du meneur comme animateur, qui gère le rythme de la partie, qui gère le temps de parole à la table, qui gère aussi quelque part la mise en émotion finalement de cet univers. On parle donc de décrire des décors, mais aussi quelque part, voilà, il va faire des intonations, des bruitages, il va faire intervenir un événement, mais pas n'importe quel moment, au moment le plus dramatiquement approprié, ce genre de choses. Voilà.
Alors on pourrait dire aussi que du coup il est garant de la bonne santé du groupe, parce que c'est à lui que revient l'obligation que les joueurs s'entendent bien, qu'il n'y ait pas de conflit, etc.
Justement, ça c'est le genre de rôle, on a envie de l'octroyer à toute la table. Si la partie se déroule bien, ce n'est pas nécessairement grâce au meneur de jeu. C'est grâce à la bienveillance des joueurs autour. C'est parce que tout le monde, ce soir, a envie de jouer au même jeu, au même moment, et a envie de ressentir les mêmes choses. Je pense qu'il y a aussi... On a tendance à charger le MJ sur son rôle d'animateur, à dire si la partie se déroule bien, c'est parce que le meneur de jeu est bon. Et inversement, si elle se déroule mal, c'est parce qu'il est mauvais. Et on occulte trop souvent le rôle des joueurs autour de la table. Et il y a des gens comme Eugénie, par exemple, qui, sur son blog, essayent de remettre le joueur au cœur de la partie. Et ça, c'est très important. Et je voudrais juste revenir, tu as dit à un moment donné, le meneur de jeu est un joueur différent des autres. j'ai envie de dire, un participant différent des autres. Parce que quand on commence à supposer l'existence d'un meneur de jeu, généralement, on a tendance à l'opposer justement à des joueurs. Tu vois. Donc si tu dis que c'est un joueur, on ne comprend plus vraiment ce qu'on entend par joueur à ce moment-là dans le système classique. Donc en général, on a un meneur, des joueurs, tous des participants.
Je crois que j'ai entendu dans la bouche d'un d'entre vous qu'il jouait un jeu différent, justement.
Alors, on dit souvent ça, ouais. C'est-à-dire que lui, il peut tricher avec les règles facilement. Déjà, il a un espace pour se cacher, pour pouvoir tricher, ce que n'ont pas les autres, en théorie. Hein. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, là, globalement, on peut à peu près tout casser derrière. C'est l'avantage. Pour l'instant, on commence à vous montrer les cibles. Donc il peut tricher. Il a effectivement un temps de préparation avant la partie qu'on lui attribue souvent et que les joueurs n'ont que rarement. Alors c'est lié à la préparation du scénario, tout ça. Il y a des choses beaucoup plus structurelles. C'est peut-être les plus solides finalement. Quand Olivier parlait du fait que c'est lui qui amène le jeu, c'est lui qui le présente aux autres joueurs, c'est aussi pas souvent, mais c'est facilement lui qui va organiser la partie, proposer une partie de jeu de rôle tout court, éventuellement l'héberger. C'est souvent lui qui passe la musique, voire même qui la choisit. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui jouent de la logistique, qui sont aussi du... On parlait d'animateur de partie, il y a cette chose très prosaïque. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est lui qui amène la pizza, mais on n'est pas loin quand même. En tout cas, voilà, le meneur, il a effectivement une approche en théorie différente des autres.
Juste revenir sur un point dont tu as parlé et qui effectivement revient souvent, le MJ triche. On dit le MJ triche pour assurer la bonne ambiance. Il jette les dés derrière le paravent. Si on joue à Star Wars, on n'a pas envie qu'au dernier moment, on loupe l'étoile noire, on perd et l'Empire a gagné et tout le monde est triste et on a l'impression d'avoir perdu sa soirée. Or, s'il triche, comment peut-on lui attribuer le rôle d'arbitre ?
Oh là là, oh. Fais-moi les malins, là.
Et puis, de la même façon, on refuse par contre aux joueurs ce droit de tricher, même pour avoir une plus belle action, etc. Bon, qui n'a jamais caché le résultat de ses dés, hein, levez la main. Alors, quand même, il y a des gens honnêtes. Donc,
c'est plus compliqué que ça, parce que finalement, si on l'autorise les joueurs à tricher, mais en le formalisant sous forme de règles, les points de destin, ce genre de trucs, c'est de la triche permise. Alors, est-ce que ça reste de la triche
Non, c'est pas de la triche. Si c'est permis, c'est pas de la triche. On va pas débattre du carton rouge au football, sinon ça va être. On va faire l'after foot après, c'est pas bon.
C'est de la triche. C'est ça. C'est de la triche ou c'est donner aux joueurs temporairement, et on va y arriver, des pouvoirs de meneur, les points de destin. C'est dire, mon échec, en fait, c'est une réussite. Ou en fait, je dépense un point de destin et je connais un bonhomme.
Non, tu lui donnes pas les pouvoirs du meneur. Le meneur reste clairement défini.
Ouais, même des petits bouts. Des petits bouts de pouvoir.
Mais tu partages son autorité.
Oui.
Mais dans le fond, le meneur, c'est toujours le meneur de jeu, c'est toujours une personne qui l'incarne, tu vois ce que je veux dire ?
Oui. Pas...
Alors, justement, et là, on voit tout de suite un problème. C'est-à-dire, vous avez vu le nombre de rôles qu'il a ? Le mec, il doit être animateur, il doit mettre tout le monde d'accord, il doit connaître le système, il doit maîtriser l'univers, il décrit les PNJ. Bon, il y a 4 PNJ dans un univers, je vous laisse imaginer le nombre de PNJ que ça fait à côté, hein, des millions, des milliards, ça dépend sur quelle planète on est. Il doit maîtriser tous les décors, les bruitages, les machins. Mais c'est qui ce type ?
Et en plus, il doit être sympa.
Et en plus ?
Normalement.
Ouais, alors là...
Visiblement pas chez tout le monde.
Voilà. Pour certains, il a également un rôle de torture ou je sais pas quoi. Bon, mais voilà, on voit bien qu'il sur lui pèse beaucoup trop de contraintes. Donc il va falloir le faire exploser, on va tout faire péter.
Alors justement, c'est le genre de choses, s'il doit être sympa, s'il doit pas être sympa, ça fait partie des choses que le jeu a tendance à favoriser ou à faciliter en disant, voilà, dans tel jeu, on a un MJ qui est plutôt opposé, dans tel jeu, il y a un MJ qui va plutôt être un adjuvant des joueurs. On pourra, je pense qu'on en reparlera aussi, parce que Manuel, toi, tes jeux parlent aussi de ça, le fait qu'on puisse avoir un personnage incarné par le MJ qui n'est pas un personnage joueur. Donc, il a aussi des aides pour ces rôles-là.
Oui, parce qu'en théorie, on a listé tout ce qu'il fait, mais le MJ, il y a un certain nombre de choses qu'il ne fait pas. Il ne joue pas un des personnages principaux de l'histoire, en théorie. En théorie, c'est les PJ, les personnages principaux de l'histoire, et tout le reste, c'est des protagonistes, de l'accompagnement, des opposants, mais ce n'est jamais les personnages importants, enfin, les plus importants dans l'histoire, en théorie. Et c'est quand même principalement, c'est sa principale limite, qui reste aussi, elle, très théorique. Alors, il y a des jeux. Le dernier que j'ai écrit, pour le coup, est un peu sur ce principe-là, mais ce n'est pas le seul. C'est inspiré d'un jeu japonais qui s'appelle Ryutama, où il y a déjà ce principe-là, à savoir que le meneur a un personnage. Alors, c'est un truc qui s'est beaucoup pratiqué. Je ne sais pas si ça se pratique toujours beaucoup. Dans les années 90, ça se faisait quand même régulièrement que le meneur, il ait son personnage à la table, qu'il soit un des PJ du groupe. Généralement, c'était quand même celui qui était un peu mieux que les autres. Voilà. Et on voit tous le problème. Le problème, la seule solution en fait pour que le meneur de jeu ait un personnage un peu comme les joueurs, mais que ça ne pose pas de problème de jeu, c'est qu'il n'agisse pas suivant les mêmes règles. Il faut qu'il ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles de création pour le personnage du meneur, qui donne un certain nombre de capacités, de choses qu'il peut faire en tant que meneur, et puis que les joueurs ils aient des personnages de joueurs qui leur permettent de faire un certain nombre de choses en tant que joueur. Dans Summer Camp, et c'est directement le cas aussi dans Ryutama, le personnage du meneur, il permet de modder le jeu. Si mon personnage c'est plutôt un guerrier, ça veut dire qu'on va partir plutôt sur des aventures guerrières, et donc tout de suite, ça va modifier 2-3 règles qui seront appliquées à tout le monde, où les combats seront plus épiques et il y aura moins de scènes intimistes, par exemple. Et là, ça devient intéressant d'avoir un personnage de meneur qui va quelque part guider la narration. C'est à la fois une règle de jeu et en même temps un intervenant ponctuel qui va comme ça, qui va guider, qui va aider les joueurs, enfin qui va aider les personnages joueurs, comme le meneur, lui, en tant que personne, guide et aide les joueurs autour de la table.
Alors, accessoirement, dans Ryutama, les joueurs peuvent faire le choix de quel dragon, quel type de dragon, quel type de personnage. Parce que c'est aussi une façon d'orienter.
Parce que finalement, c'est intéressant que ce soit les joueurs qui décident, à la place du meneur, quel personnage il va avoir. Enfin, c'est pas systématiquement le cas, mais c'est intéressant que ça puisse être le cas. Parce que ça permet des tas de choses. Ça dit aux joueurs, ok, tu vas avoir un personnage, tu vas pouvoir intervenir dans notre histoire, mais c'est notre histoire, c'est nous les héros. Donc, c'est nous qui choisissons quel personnage tu as dans cette histoire, parce que ça va avoir une incidence sur notre histoire.
Romaric, je te voyais scoulette, et puis après, tu passeras le micro à Vivien.
On sent qu'il n'a pas encore tué le père, en fait. C'est-à-dire, en fait, il veut qu'il y ait encore quelque chose qui se rattache à un meneur de jeu dans ce jeu, mais il pourrait très bien l'appeler autrement. Moi, je pense que le meneur de jeu, c'est vraiment quelque chose qui apparaît avec le jeu de rôle classique. En gros, il y a tout un tas de jeux de rôle qui sortent dans le commerce autour des années 90 qui utilisent exactement le même système. Et ça se voit à travers des systèmes génériques qui sont produits même avant, au niveau des années 80.
Définis ce que tu entends par système pour les gens qui ne sont pas des familiers de ta terminologie.
Bah, écoutez, un système de... Ah oui, non, si, tu as raison. Le système donne le rôle et la fonction de chaque joueur pendant une partie. Fixe le rôle de chaque joueur pendant une partie. Chaque participant pendant une partie. Ça, voilà, c'est un ensemble de règles qui vont définir qui a l'autorité pour dire telle ou telle chose sur la fiction qui va être créée, le contenu fictionnel malléable qui va être créé au cours de la partie. Ça y est, je l'ai sorti, ça vous fait marrer. Hein. Ça vous amuse. Hein. Ça vous fait rire. Hein. Ouais. C'est évidemment le système qui détermine qui a le droit de dire quoi et comment. Et par exemple, on parlait tout à l'heure d'un des rôles du meneur de jeu qui était d'avoir l'autorité sur les décors et les personnages. Eh bien, ce qu'on veut dire lorsqu'on dit ça, c'est juste que ces propositions sur les personnages, lorsque le meneur de jeu fait une proposition sur un personnage ou un décor, en dernière analyse, c'est lui qui a l'autorité pour entériner la chose. Mais on sait tous très bien qu'il y a des joueurs, parfois, qui, au cours de la partie, font des propositions qui sont excellentes, qui peuvent être de l'ordre de « Ah, oh, et ce jour-là, on va dire qu'il pleut !» Et le meneur de jeu le regarde et fait « Oh ouais, c'est trop classe pour la scène, j'accepte, je valide !» Donc ça veut dire que tout le monde peut faire des propositions, mais que le système dit qui a l'autorité finale pour choisir quelle proposition deviendra une partie de la fiction ou pas. Donc ça va sur la définition du système. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que le meneur de jeu, c'est un concept flou. On est tous plus ou moins maîtres de jeu, en fait, à une table, en fonction des différentes propriétés qu'on lui octroie. On voit qu'en fait, en dernière analyse, le meneur de jeu le plus tyrannique, on va dire, le plus dirigiste dans un scénario classique horrible où les joueurs n'ont presque pas à parler pour, en fait, le meneur de jeu compteur, sens absolu du terme, il a finalement autorité sur la totalité des choses. Et fonction de ce dont on le dépossède, l'autorité dont on le dépossède, eh bien, on a un meneur de jeu qui s'affaiblit progressivement. Et la question, c'est un peu comme le chauve. À partir de combien de cheveux sur la tête, on peut vous dire chauve ? 1, 2, 3, 4, 5, c'est un paradoxe sorite. Le meneur de jeu, c'est la même chose. À partir de combien de propriétés, à partir de combien de propositions dont il n'a plus l'autorité, il est dépossédé, à partir de quand on peut dire, là, ça y est, t'es plus meneur de jeu, mec ? tu n'es qu'un participant parmi les autres, Olivier. Je sais pas, Emmanuel me montre Olivier.
Voilà, non, mais effectivement, je pense qu'on n'a pas beaucoup entendu Olivier. Alors toi, avec ton background et tes approches, donc c'est une référence que tu retrouves, cette définition et cette non-définition finalement.
Alors, je serais moins catégorique que Vivien et Romaric quand ils commencent un peu par provocation pour lancer le débat en disant que le meneur de jeu, il faut l'abattre parce que de toute manière, il pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, cette définition est un peu floue, que la différence entre les instances que représente le meneur de jeu, ce peut être celui de la narration, celui de décider d'un certain nombre de choses, voire le droit de veto sur telle ou telle chose, et puis le personnage, le participant, comme on disait, et alors on va dire de plus en plus remis en question, mais c'est pas si sûr. Je pense qu'on a une vision un peu du meneur de jeu traditionnel qui est sans doute aussi un cliché qui n'a jamais existé. Enfin, tout ce dont on parle depuis 10 ans en termes de partage de narration existait déjà avant, d'une manière plus ou moins importante à différentes tables. La question, c'est pas tellement de savoir pourquoi il faudrait l'abattre et qu'est-ce qu'on en ferait, mais pourquoi est-ce qu'on continue finalement à jouer avec un participant un peu à part qui s'appelle un meneur de jeu, et plutôt que de voir en quoi il pose problème, en quoi est-ce qu'il est utile et en quoi est-ce qu'il rend la partie meilleure. Il y a des jeux qui arrivent totalement à s'en passer, mais ils sont quand même finalement très peu nombreux. Des purs jeux sans MJ, enfin sans MJ, sans un personnage qu'on appellerait un meneur de jeu qui jouerait vraiment différemment des autres.
Ce qui est vraiment important de comprendre, Olivier, c'est que le rôle du meneur de jeu est toujours sauvegardé dans n'importe quel jeu de rôle. Ses rôles sont juste répartis de façon différente, mais ça tu le sais bien.
Non, c'est ce que j'étais en train d'essayer de dire.
Tout à fait.
J'essaie de me rattraper. C'est pour ça que je fais la différence entre un participant et une instance. Ouais. L'instance meneur de jeu, elle est toujours là. Les décisions que prend le meneur de jeu, elles sont toujours là, même s'il n'y a pas un joueur en tant que tel qui va du début de la partie jusqu'à la fin de la partie.
D'accord.
Meneur de jeu, c'est ce que je voulais dire.
Très bien.
Donc, des jeux dans lesquels il n'y a pas un joueur à part, un participant à part, comme Fiasco par exemple. Les attributions classiques du meneur de jeu, elles vont être prises plus ou moins, soit par les règles, soit par les autres joueurs. Pourquoi est-ce que ça marche dans Fiasco et pourquoi est-ce que ça marche pas forcément dans d'autres jeux ? Camille, arrête de rigoler. À un moment, il va falloir se calmer un petit peu, sinon je vais te demander de sortir.
Vous remarquerez que
quand je dis des choses drôles, d'accord, mais sinon non.
Et on l'a perdu.
Je savais que j'aurais à me battre pour les micros avec ces quatre-là. Mais par contre, du coup, j'aimerais bien entendre Vivien, puisque justement.
Vivien.
Voilà, justement, Vivien, il a décidé, lui, pour le coup, de tuer le MJ dans ses jeux. Alors, justement, pourquoi est-ce que tu as fait ces choix-là pour tes jeux à toi ? Comment est-ce que tu as réparti les différents rôles ? Comment ça se passe dans tes jeux ?
Alors, le problème, c'est qu'il faudrait remonter un petit peu loin pour savoir comment on arrive là. C'est sympa l'idée, le MJ décide, donc quelque part il a juste la responsabilité, donc n'importe quel joueur peut proposer à tout moment quelque chose et le MJ peut lui dire oui. Tout ça c'est dans un monde merveilleux où le MJ est hyper tolérant et honnêtement même moi en tant que MJ j'étais pas tolérant à ce point, en tout cas à mes débuts. En général quand on est MJ j'ai l'impression, en tout cas moi ça a été mon cas, j'étais une espèce de MJ cinématographe, c'est-à-dire que j'avais en tête des histoires, j'avais envie de les faire vivre aux autres joueurs, j'arrivais avec mes belles histoires et eux qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils décapitaient le méchant, ils crachaient dessus et ils jouaient au foot avec sa tête. Et moi, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux avant ça, et j'imaginais un grand dialogue final, et ça allait être beau, etc. Et ça marchait pas, et je me comprenais pas, et au bout d'un moment, le jeu de rôle a commencé à me gonfler. Commençait à me dire, bon, c'est naze, je vais plutôt écrire des bouquins, ou faire du cinéma. Bon, ça a pas marché, c'est plus facile de réunir trois glandus autour d'une table, autour d'un jeu qu'on a fait soi-même, que de trouver 50 000 dollars, mais voilà.
C'est pas vrai, je veux dire, il y a des tas d'éditeurs qui peuvent nous montrer le contraire. Oui.
Ok, donc... Ça, quelque part, ça illustre...
Et en 25 minutes.
Ouais, ça illustre la fameuse théorie de... Donc, c'est René Noir, si je ne me trompe pas, de la chose impossible avant le petit-déj, l'idée que le MJ, il a une histoire, il la connaît, il dirige le monde, il dirige l'histoire, et les joueurs dirigent leur personnage, ce qui n'est pas possible, parce que les personnages joueurs sont l'histoire, en fait. Finalement, vous regardez n'importe quel roman ou film, finalement, quand on écrit un roman, on fait quoi ? On commence d'abord quasiment par des personnages, et on développe le monde autour de ces personnages, on développe l'histoire autour de ces personnages. Et c'est comme ça qu'on crée, en fait. C'est les personnages qui créent l'histoire. On ne le crée pas sans eux. Donc si le MJ arrive avec une histoire toute prête, et les joueurs s'ennuient. Et au bout d'un moment, ils font ce que font n'importe quelle personne qui s'ennuie. Ils commencent à casser les murs pour montrer qu'ils existent.
D'autant plus que ces salopards de joueurs, ils font leur personnage eux-mêmes. Et du coup, T'as même pas le contrôle en tant que créateur de l'histoire sur les personnages principaux de ton histoire, ce qui ne rime à rien.
Heureusement, en convention, on peut faire des prêt-tirés ou des trucs comme ça, c'est cool.
Heureusement que des fois, on
j'adore
leur laisse pas
Dragon le choix. C'est que des prêt-tirés, ça a l'air très bien comme histoire. D'ailleurs, il y a des romans. Deuxième possibilité, c'est l'histoire du... Alors, j'ai vu ça sur Wikipédia, parce que je me suis beaucoup renseigné. C'est l'histoire du MJ comme conteur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le MJ n'arrive pas avec une histoire toute faite. C'est un conteur dans le sens de l'art du conte, tout ça. C'est-à-dire qu'il arrive avec un début d'histoire et il s'adapte à ce que les joueurs lui offrent. Sauf que cette analogie-là, elle me pose aussi problème, parce que quelque part, le joueur est transformé non plus en joueur, et le MJ aussi en joueur, mais ça devient une espèce de MJ artiste qui utilise les joueurs comme matériaux et qui passe son temps à essayer de rebondir sur ce que les autres font pour créer une belle histoire, alors que les autres, c'est des espèces comme des petits singes qui courent partout et qu'on essaye de rattraper pour faire un truc joli, et eux, ils n'en ont rien à faire. C'est la deuxième analogie qui me pose problème. Du coup, ma conclusion...
C'est la définition à peu près de la moitié de mes parties, voilà. Y compris avec des jeux sans MJ.
Mais c'est ça, moi j'ai l'impression, mes parties, de passer mon temps à jongler avec des tronçonneuses et à me louper une fois sur deux, quoi. Et quand en plus ça rate, les tronçonneuses me regardent avec un salaire en me disant « quand même, t'as fait n'importe quoi, t'aurais pu au moins apprendre à jongler correctement ».
Je ne sais plus qui avait écrit, j'avais lu que être meneur à une partie de jeu traditionnel, c'est comme essayer de diriger un troupeau de chats mouillés sous LSD.
Voilà, il y a un peu cette idée-là. Et en plus, à la fin, on te juge sur la beauté du jonglage du troupeau de chats, enfin... Donc ma conclusion, c'était en fait que pour arriver à stopper cette espèce de côté, tout le monde part dans tous les sens et toi, tu es l'espèce d'un peu de maître d'école ou de papa qui est là pour essayer de centraliser tout le monde, c'est effectivement de répartir les rôles. Donc de jouer carte sur table, de dire voilà, écoutez, on va essayer de répartir au maximum les responsabilités. Maintenant, il n'y a plus que moi qui suis responsable de la qualité de la partie. Vous aussi, si c'est pourri, c'est aussi votre faute, voire même c'est que votre faute après tout. Moi, je me suis tapé un bouquin, je l'ai payé, je l'ai lu, j'ai préparé un scénar, il n'y a pas de raison. Donc on pourrait imaginer aussi d'ailleurs, moi j'essaye de travailler sur des jeux où on pourrait imaginer des joueurs qui préparent quelque part une partie du scénario, quitte après à ce que le MJ se charge de l'animer en quelque sorte, mais au moins il ne serait pas forcément l'initiative du monde. Et pour revenir donc à ta question principale quand même, avant de te rendre le micro, par exemple pour Perdu sous la pluie, c'était le principe, donc comme le but du jeu c'était quelque part de traiter de la solitude, c'était de faire un joueur face à que des MJ. Donc le joueur joue un enfant, on est dans sa tête, donc il a le droit de parler de ses pensées, il a le droit de parler de ses émotions, il a le droit de parler de tout ça, et tous les autres sont des MJ, c'est-à-dire qu'ils décrivent le décor, ils décrivent leur personnage, mais sous théoriquement, même si c'est difficile à faire, à la troisième personne du singulier, comme des PNJ. Et pour éviter, parce qu'on est quand même là pour s'amuser un petit peu, enfin en tout cas pas là pour qu'il y en ait une victime, je voulais pas reproduire une espèce de mécanique d'humiliation. Après on tourne évidemment, une fois qu'un joueur a terminé son tour, il passe la main à un autre qui devient à son tour joueur et tous les autres deviennent MJ à nouveau. Donc quelque part on prend aussi plaisir à taper un petit peu régulièrement sur les autres et les autres prennent plaisir à nous taper dessus à leur tour. Voilà. Mais pour le coup, j'étais pas sûr que ça marcherait. Je pensais que ça allait se viander complètement. Et
c'était sûr qu'on prendrait plaisir à te taper dessus. Hein.
Non, mais pas ça, évidemment. Mais à part moi, je veux dire, peut-être qu'ils n'auraient pas pu prendre plaisir à se faire taper dessus par moi ou à taper sur d'autres personnes. Mais finalement, tout le monde y a pris plaisir.
Mais donc finalement, tu as préféré faire tourner le rôle de MJ plutôt que de répartir une fonction ici, une fonction là, une fonction là.
Ouais, c'est toujours aussi flou. Mais cette fois, c'est réparti sur, par exemple, si on joue à 5, 4 personnes. Donc les 4 personnes, il y en a une qui va commencer à décrire un élément de décor, l'autre va d'un coup ajouter un détail sur le décor, un autre va ajouter un monstre, par exemple, un autre va juste se contenter de décrire un PNJ, le sien, a priori, parce qu'on essaie de pas trop empiéter quand même. Et voilà, donc la gestion des PNJ n'est pas forcément celle de gérer par tout le monde en même temps, les décors non plus, etc.
Alors au niveau justement de l'implication des joueurs, est-ce qu'on voit beaucoup de différences? Alors je pense aussi par exemple sur les frontières où on voit une construction de l'univers collective. Est-ce que tout ça permet de finalement d'avoir des joueurs moins frustrés, puisque c'est aussi de ça qu'il était question dans ton explication, Vivien? Est-ce qu'on a des joueurs moins frustrés, plus impliqués, plus dedans?
Alors oui, mais c'était pas l'objectif à l'origine. Comme tu le disais au début, moi j'ai bossé un petit peu sur la gamme Oltré et j'ai redécouvert un truc avec Oltré. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Oltré, mais en gros, c'est un jeu où les personnages des joueurs vont faire de l'exploration et c'est eux qui vont décrire ce qu'ils découvrent. Puis le meneur de jeu reprendra la main, mais il n'y a pas de scénario préparé en amont et les joueurs vont décrire les décors au fur et à mesure qu'ils les explorent, grosso modo. Et j'ai été reprendre un peu dans ces mécaniques-là pour la construction de contrées sur les frontières. Donc sur les frontières, les personnages principaux de l'histoire partent loin de leur lieu d'origine. Ils vont dans une contrée qu'ils ne connaissent absolument pas. Et la première partie consiste à définir ensemble à quoi elle va ressembler. de par une suite de tirages sur des aléatoires sur des tables, comme on sait très bien le faire en jeu de rôle. Ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est les joueurs qui prennent une décision de à quoi va ressembler l'univers dans lequel ils vont jouer. Donc d'abord, ils vont bien le connaître. Enfin, en tout cas, ils vont le connaître autant que moi, en tant que meneur. Ça m'évitera d'être l'encyclopédie permanente et d'avoir à répondre continuellement à des questions très agaçantes sur plein de détails que je ne connais pas et pour lesquels je n'ai pas de réponse typiquement. Mais ce peuple-là, c'est quoi leur cuisine traditionnelle? Alors que j'en sais rien du tout en tant que meneur. L'avantage, c'est que là, il est très clair que je ne le sais pas plus que les joueurs. Donc je peux leur dire, à ton avis. Et puis du coup, ça leur laisse la main. C'est une responsabilité de moins. Ça permet effectivement de soulager des choses. Et puis en plus, ça a effectivement cet avantage que du coup, j'ai moins de préparation. Dans Oltré, c'est encore plus vrai parce que c'est vraiment dans tous les scénarios. Moi, j'ai redécouvert en faisant jouer à Oltré à quel point on pouvait jouer avec aucune préparation, arriver à une partie en tant que meneur en se disant « j'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer ce soir » et c'est formidable. Parce que ça soulage énormément de temps de travail, je trouve. Et en plus, ça redonne une certaine richesse pour moi au rôle de meneur qui est celui de pas trop savoir à l'avance ce qui va se passer pendant la partie, qu'on trouve moins, je trouve, en tant que meneur dans des jeux traditionnels.
Alors nous, sur la cellule, on va bientôt faire paraître une critique assassine d'un jeu qui s'appelle Sur les frontières de Manuel Bedouet, qui propose de faire exactement ce que Manuel Bedouet vient de dire. Bon, voilà, alors il y a des problèmes à ça. Et notamment un problème massif qui est le problème que nous on a tendance à appeler le principe de Chégué élargi. Tu connais le principe de Chégué ? C'est le fait que, donc pour vous, si vous ne connaissez pas encore le principe de Chégué, je vous invite à le découvrir, c'est très intéressant. C'est le principe que les participants posent eux-mêmes les problèmes qu'ils vont résoudre, eh ben on se fait chier en fait. C'est un peu ennuyeux en fait.
Enfin, et les résolvent en même temps. C'est-à-dire, genre, je dis. Ah, puis là, il y a un dragon, il arrive, et puis moi, je sors mon grande épée, et puis je lui décapite, et puis voilà, c'est trop bien.
D'où le élargi. Nous, on a un principe de Chégué élargi. Ça, c'est le principe de Chégué, de base. Nous, on a un principe de Chégué élargi qui est, même si j'ai posé au début du scénario mes problèmes, quand je vais les résoudre à la fin, ben, je vais quand même m'ennuyer un petit peu. Et ça, c'est un point, je pense, qui est très important. Et pourquoi les joueurs de jeux de rôle classiques sont très attachés aux meneurs de jeu, c'est qu'il me semble que les joueurs ont encore aujourd'hui, les participants, envie d'être surpris. Et le fait que quelqu'un arrive ce soir avec un scénario préparé ou des éléments que les joueurs ne connaissent pas, eh ben, ça les incite à découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, à prendre des choses qu'ils n'ont pas mis eux-mêmes, etc. Découvrir des choses dans une fiction qu'on a mis nous-mêmes, il y a un côté un peu emmerdant quand même. Et ça, c'est un des problèmes, je trouve, des jeux dont parle Manuel là. Et à côté de ça, ils ont beaucoup de qualités. Hein, c'est une critique, mais tu verras que.
Et justement, si par exemple Manuel a gardé un MJ quand même sur ce jeu-là, est-ce que c'est pas justement pour arriver à garder et pour éviter que il a pas tué le père Merci Romaric. Donc voilà, une façon aussi de garder cette adversité qui est peut-être beaucoup plus difficile à monter entre deux joueurs qu'entre un joueur et puis un MJ.
Non mais c'est ça, parce que en fait, ce qui est marrant quand on donne les clés aux joueurs, c'est de leur dire « Ok, tu peux décider quelle va être l'adversité, les ennemis vont ressembler à ça, et puis de s'en garder quand même sous le coude, en disant « Oui, mais en fait, ils vont être différents de ce que le joueur avait prévu à l'origine, et puis ça va twister un peu les choses. » Bon, ça a ses limites. Hein.
Il y a un autre problème, c'est que tu ne sais pas du coup ce que les gens vont proposer en avance.
Ah bah non, donc il n'y a pas de préparation,
Tu peux te retrouver avec des choses choquantes, par exemple, des choses qui arrêtent les joueurs, ne réfléchissent plus parce que tu leur proposes un truc, par exemple, je sais pas, tu leur proposes à un moment donné que ce qui apparaît en face d'eux, c'est un monstre qui a la tête de leur mère, et il se trouve justement que la semaine dernière, ils ont cauchemardé là-dessus, et ça les arrête, ça les brise. Il y a plein de problèmes, en fait. C'est proposer des choses qu'on joue immédiatement comme ça, ça peut créer des phénomènes d'improvisation, ça peut tourner au cul très souvent, en fait. Ben oui.
Alors dans les parties de Romaric. Elle était gratos celle-là.
Oui, oui, oui. J'ai le chapeau, mais j'ai pas le poing qui va avec encore. La chance.
Oui, non, mais il y a plein de limites. Effectivement, ça peut tourner aussi à l'effet un peu Scooby Gang, où ils se mettent à courir dans tous les sens sans raison. Mais ça, à la limite, c'est pas. Je suis pas certain que la préparation en amont d'un scénario apporte grand-chose de ce point de vue-là, parce qu'on peut se retrouver avec les mêmes principes de choc.
Quand on
on dit un meneur de jeu, un maître de jeu, on attend de la personne qu'elle maîtrise quelque chose, tu comprends ? Si tu dis c'est tout le monde qui maîtrise, bah, du coup il n'y a plus de meneur de jeu. Donc, alors élimine-le ton livre, arrête d'appeler ça un meneur de jeu, ce sera moins confus. Appelle ça le maître de cérémonie ou je ne sais pas quoi, mais change de terme et comme ça tout le monde...
Alors excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que du coup c'est pas aussi avoir un équilibre entre ces deux choses-là, c'est pas une façon de répondre à la chose impossible avant le petit-déj dont tu parlais, Vivien ? De dire que bon, finalement, on met de l'imprévu en créant les choses au dernier moment et en n'ayant pas prévu un scénario linéaire, mais on permet tout de même au MJ, à un moment, de prendre des décisions.
Moi, je pense, enfin, j'ai l'impression que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre une partie de jeu de rôle et la création d'une histoire à 4 mains, ou 8 mains, ou 12 mains. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est que, en général, un jeu de rôle, c'est une forme de simulacre de réalité. Et pour qu'il y ait simulacre de réalité, il faut quelque part qu'il y ait une autorité autre que moi-même. Qu'à un moment ou un autre, l'univers, eh ben, ce ne soit pas juste. Enfin, moi, ce que ça m'évoque quand on parle vraiment de narration partagée, mais vraiment à l'extrême, genre tout le monde peut parler, tout le monde a le même pouvoir et tout ça, ça peut évoquer aussi l'idée, comme un enfant quand il naît, il ne voit pas la différence entre lui-même et le monde, en fait. Il y a une forme d'infantilisation aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a de l'infantilisation quand on dit c'est le MJ qui possède tout, qui décide tout, et toi, tu as juste à dire oui, amen, et etc., et à être content. Mais il y a une infantilisation dans l'autre sens aussi, quand c'est tout le monde, tout ce que vous proposez, c'est formidable, tout ce que vous dites, c'est merveilleux, et on parle tous dans... En fait, on a envie quand même aussi, quelque part, quand on joue un jeu de rôle, je pense, d'incarner, d'être dans la peau de quelqu'un. On ne reproduit pas une fiction, finalement, quand on fait un jeu de rôle. On se met dans la peau d'un personnage, voilà. Et pour se mettre dans la peau d'un personnage, ben on a quand même besoin qu'il y ait de la résistance en face. Et cette résistance, c'est le monde, c'est l'adversité. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a quand même encore besoin soit d'un MJ, parce que c'est plus facile, parce que lui, il aura une vision un petit peu globale de ce qui se passe et qu'il saura à peu près quelle est la cohérence. Ou alors, même si son rôle est après divisé un petit peu, mais on a quand même besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui incarne cette résistance, quoi.
Mais en fait, dans les jeux de rôle, enfin dans beaucoup de jeux de rôle sans meneur, à commencer par le tien, mais c'est pas le seul. Moi, j'ai vu la même chose dans Perfect, dans une certaine mesure dans Fiasco, même si c'est un cas un peu à part. En fait, c'est pas vraiment un jeu sans meneur. C'est un jeu avec que des meneurs et un joueur, et on tourne et on séquence.
Oui, c'est ça. Hein. Souvent, c'est plus les storytelling games, genre il était une fois et tout ça, où on voit où il y a pas de MJ, parce que c'est là où on commence à arriver dans des limites. C'est là où on se demande souvent, est-ce que c'est du jeu de rôle encore ? Est-ce que ça n'en est pas
Non, je réagissais juste sur un élément, mais on en revient quand même à quelque chose d'un peu contradictoire, qui est que le meneur doit à la fois être un opposant, mais un adjuvant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en face des joueurs, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas que les joueurs perdent non plus, pas totalement, ou qu'ils aient encore une possibilité. D'où, on en revient, on retombe sur nos pattes, mais d'où un certain nombre de propositions ludiques, pour justement un peu mettre de l'ordre là-dedans.
Ah, c'est là où on voit que Donjons et Dragons avait tout compris. Hein. Parce que là, ils tuaient tout le monde hein, à l'époque, au début. Bah, hein. Il n'y avait pas de voilà. Je vous sauverai à la fin, si vous êtes bon et chanceux, vous êtes mort.
Il n'y avait pas d'idée de challenge writing, il n'y avait pas d'idée de choses comme ça. C'est, les joueurs, même pas les personnages, ont à être suffisamment intelligents pour faire face à l'adversité du meneur. Oui. Si on prend le jeu de rôle tel qu'il était joué en 75, sans doute qu'il y avait un peu de ça.
Et là, on revient en fait à une question. C'est quand tu posais la question qui est le meneur de jeu, en fait, moi, ce que j'avais en tête, c'est sous-entendu qui entre les joueurs autour de la table, le maître de jeu ou alors l'auteur du jeu, tu vois, qui est le maître du jeu au sens qui vraiment va déterminer le sens de la partie. Et quand on parle des rôles du meneur qui s'exportent sur différents participants, moi, j'ai la sensation que du coup, aujourd'hui, ce qui se fait, ce qui se passe, et ce qui pose problème à beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, c'est l'auteur du jeu qui, en répartissant ses rôles à différents types de participants, devient le maître du jeu. Et ça, ça pose un problème. C'est-à-dire, du coup, l'auteur devient une espèce de tyran, en fait, qui impose à ses tables la bonne manière de jouer. Et ça, on l'observe énormément dans l'indépendance francophone en ce moment, cette la tyrannie de l'auteur, en fait.
Une façon de dire, à partir du moment où je délègue à telle ou telle personne, oui. Je sais très bien ce que je délègue.
Oui.
Alors, justement, en tant que créateur, tous, qu'est-ce que vous en pensez ? Créateur, auteur, co-auteur.
En fait, en jeu de société, on trouve ça normal. En jeu de société, le créateur du jeu fait les règles, les gens appliquent les règles, ils n'ont pas tous nécessairement les mêmes capacités, et puis on trouve ça normal. On ne se pose même pas la question. On dit pas, il y a un joueur, il peut faire un peu ce qu'il veut avec les règles, et puis les autres, bah par contre, ils s'y soumettent, quoi. On dit, tout le monde suit les règles, et elles s'appliquent pour tout le monde, et le créateur, il, voilà. En jeu de rôle, on a encore du mal à trouver ça normal. On a du mal, le meneur, on entend encore souvent le meneur qui dit, oui, les règles, bon, voilà, on s'en arrange. L'important, c'est de bien s'amuser. Alors oui, l'important, c'est de bien s'amuser, d'accord, mais on essaie de faire des jeux qui permettent de bien s'amuser d'une façon ou d'une autre. Sinon, on arrête de sortir des jeux, on joue tous au même qui s'appelle jeu de rôle RPG, et puis ça suffit.
Au-delà de ça, c'est qui décide qu'on s'amuse bien ? C'est, est-ce qu'on le sent comme ça ? Est-ce que c'est le meneur qui dit « là, on s'amusera mieux si je décide de tricher. Là, on s'amusera moins mieux si je décide de respecter les règles. » Plusieurs fois, tu as posé la question de l'autorité. C'est un peu ça. S'il y a quelqu'un qui décide de s'amuser, est-ce que toutes les 5 minutes, on vote ? Est-ce que je m'amuse ? Est-ce qu'on met des contrôleurs pour savoir là je perds l'attention de certains de mes joueurs,
ou alors on leur met des buzzers avec un, ils peuvent mettre un bleu ou un rouge,
ta gueule.
Vivien,
ça me fait rebondir cette histoire justement de qui décide, qui s'amuse, parce que finalement dans le MJ, on va dire traditionnel, c'est le MJ qui décide, puisque c'est lui qui triche quand il sent qu'il en a besoin, c'est lui. Et ça me ramène à une image que j'ai régulièrement quand même, c'est cette idée du MJ manipulateur en fait, qui sait mieux que les autres ce que les joueurs devraient ressentir et qui développe, on pourrait presque dire, alors je sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais on pourrait presque dire que les livres écrits pour donner des conseils aux meneurs sont quelque part des livres de manipulation à destination des joueurs, c'est souvent ça quoi, c'est-à-dire comment faire en sorte que vos joueurs soient contents, faites-leur croire, etc., bercez-les d'illusions, enfin, et il y a quelque chose de moralement gênant quoi, finalement quelque part dans cette approche du jeu quoi. Là où au contraire effectivement dans le jeu de plateau les choses sont claires, les règles sont les mêmes pour tout le monde, vous pouvez les lire d'ailleurs, elles sont accessibles. Si vous manipulez, c'est dans le cadre des règles que vous connaissez et ça va pas plus loin, les jeux de bluff, au moins on sait dans quoi on s'aventure. Dans le jeu de rôle, ça a un côté un peu non dit, caché, un peu malsain presque, on pourrait pousser.
Alors après, pour faire le parallèle entre jeux de société et jeux de rôle, est-ce que finalement, bon, le public me contredira ou pas, mais est-ce que quand on aborde un jeu de rôle, c'est pas justement pour avoir beaucoup plus de liberté en tant que joueur que sur un jeu de plateau, la possibilité de créer, et que donc finalement, on n'a pas forcément envie d'avoir et des règles très strictes et un meneur de jeu trop strict qui se mette en travers. On revient un petit peu à ce que tu nous disais tout à l'heure aussi. Mais j'ai l'impression qu'on a deux propositions créatives et deux contraintes complètement différentes.
Moi, je suis partisan du paradoxe, de toute façon. Donc, à la fin, il n'y aura pas de vérité unique. Clairement, pas de mon point de vue. De celui de Romaric, oui, mais...
Moi, je suis quand même embêté quand un joueur me dit « Moi, je fais du jeu de rôle pour avoir plus de liberté. » Et qu'en même temps, il joue à des jeux où il y a des listes de dons. Comme ça. Et qu'il faut faire des combos de folie pour avoir les vrais pouvoirs. Quoi.
C'est des contraintes créatives.
Ouais. Ah, le gros paradoxe, quand même. Hein.
Au-delà de ça, sans parler de liste de dons, si c'est pour avoir plus de liberté, mais finalement, tu n'as pas le droit de créer, sauf si le MJ dit oui ou non, elle est où ta liberté ? Tu n'as pas plus de liberté qu'avec un système de règles qui te dit que tu as le droit de faire ça. C'est comme si tu jouais à un jeu de société, que tu avais le droit de lancer les dés, mais que derrière, c'était un autre joueur qui décidait ce que tu faisais avec ton dé, dans quelle direction tu te déplaçais, quelle action tu faisais. Alors je caricature énormément, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tables qui jouent comme ça, et que c'est une pratique totalement irréaliste, surréaliste. Mais on peut quand même se poser la question.
Moi, j'aime bien la définition de Colas Duflo du jeu, comme... création d'une liberté par la légalité, en fait. Ça veut dire que chaque jeu propose de créer une nouvelle liberté. Pas d'augmenter ta liberté déjà présente, pas de te libérer, mais uniquement de te proposer l'exploration d'un nouveau type de liberté que tu n'avais pas avant, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup cette définition. Parce que du coup, ça renvoie dos à dos les gens qui disent « Oui, mais on est plus libre dans le jeu de rôle. » Non, 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 on n'est pas plus libre dans le jeu de rôle qu'au Monopoly. C'est juste qu'en fait, on explore un autre type de liberté. Et que la liberté, effectivement, laissée finalement dans le jeu de rôle, ce qu'on explore comme liberté, c'est la liberté un peu laissée aussi par le langage, que celle-ci soit plus grande que celle laissée par « je te file 10 000 balles, tu tombes sur la case prison, tu verses machin truc », je le comprends, tu vois, parce que le lexique est moins clair, on peut imaginer plein de trucs. Après... J'aime pas trop quand on parle de « il y a plus de liberté dans tel jeu », c'est pas tellement ça, c'est que c'est un autre type de liberté totalement. Et donc du coup, c'est pas tellement un paradoxe, c'est juste qu'on parle pas de la même chose, quoi, tu vois. Pas la peine de faire le grand écart, quoi, il y a deux personnes différentes. Vivien, tu voulais nous parler de paradoxe, je crois.
Alors, il nous reste un quart d'heure. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions sur cette thématique-là. On peut peut-être faire circuler un micro dans le public. Il y a des questions ? Ouais.
Est-ce qu'il y a un troisième micro, déjà ?
Est-ce qu'il y aurait un troisième micro ? Est-ce que nous aurions un technicien ? Bon, bah, je vais Régis. Faire tourner le
Est-ce que le fait que l'auteur soit de plus en plus prédominant, comme vous l'avez dit, dans les jeux de rôle moderne n'est pas plus contraignant pour vous pour écrire les règles justement?
Bah si, en fait maintenant on n'est plus des feignants, en fait on dit plus dans une base c'est à vous de vous démerder avec mon super univers qui est super original. Maintenant on se casse les bon bref, je vais pas être grossier, mais on se dépatouille, on crée des règles super complexes, on playtest à mort, on n'a plus le choix en fait, parce que maintenant il y a une contrainte qui pèse sur nous, il faut que le jeu il soit fonctionnel, il faut que ça marche quoi, avec tout type de table. Même le mec qui veut pas jouer presque, tu vois. Alors évidemment, ça ne marchera jamais. Le mec qui veut pas jouer, ça ne marchera pas. Il faut un minimum de bienveillance. Mais bon, c'est ça, c'est ça. Ça nous donne plus de boulot, en fait, dans les fêtes. C'est pour ça que, voir paradoxalement, le prix du jeu de rôle baisser, moi, ça me navre.
Pour rebondir là-dessus, on pourrait presque relier ça avec l'amenuisement, au contraire, des parties background, en fait. Au fur et à mesure que les règles ont pris de plus en plus de place, le background, lui, a diminué, parce que finalement, le monde doit être approprié par tous les joueurs, donc ils doivent le créer quelque part ensemble. Parce que, ou alors, il faudrait qu'ils lisent tous le bouquin, et hélas, pour l'instant, les joueurs ne lisent pas tous les bouquins. Et puis aussi, parce que voilà, la quantité d'informations ingurgitables, on va dire, est limitée en peu de temps avant de jouer. Donc, c'est soit les règles, soit... Bon, après, on pourrait dire que le background, c'est des règles aussi, mais voilà. Ça, je suis d'accord. Mais on va dire que pour le besoin de simplification, on va les différencier là-dessus, quoi.
Et vous n'avez pas peur d'être indigeste, à être trop mécanique ?
Moi, j'ai écrit un jeu de 30 pages, donc ce n'est pas indigeste. Mais, mais après, je suis un grand fan d'un jeu qui s'appelle Burning Wheel. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Et le bouquin fait quoi, 500, 700 pages de règles à peu près. J'ai beaucoup de mal à trouver des joueurs pour ça, donc je peux comprendre tout à fait ce que tu avances en disant la peur d'être indigeste. Oui, ça arrive quand même, effectivement.
Si je puis me permettre, Donjons et Dragons, c'est quand même trois bouquins de règles, pour commencer, qui font au bas mot 200 pages chacun. Donc ça va, on a de la marge avant d'être indigeste en termes de règles.
Oui, alors... Alors, il y a un constat quand on vous écoute, c'est qu'on a l'impression que l'auteur moderne de jeu que vous êtes ne sait plus quel est le rôle du MJ et qu'il y a une sorte de flou. Il y a une sorte de flou, vous l'avez dit, les fonctions du MJ sont des fonctions floues. Et pourtant, il y a un paradoxe dans votre discours, c'est que vous avez cité deux périodes de temps où le rôle du MJ n'était pas flou. Vous avez cité la période Donjons et Dragons, celle de 75, et la période des années 80 où vous avez dit, je cite, « le système est toujours le même ». Et alors, je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a une deuxième réponse à ce flou sur la définition du MJ. Il y a votre réponse, mais il y a une autre réponse outre-Atlantique qui est le mouvement Old School Renaissance qui va s'intéresser justement à faire un retour aux sources du MJ, un retour aux sources de cette période où le rôle du MJ n'était pas flou. Et finalement, on voit des textes comme le manifeste Old School Renaissance ou le guide du référé de Lamentation of the Flame Princess qui permet de donner un rôle en fait très très précis à ce qu'est le MJ.
Pour le coup, je ne suis pas complètement d'accord parce que quand tu regardes justement tout ce mouvement OSR, leur philosophie c'est le do it yourself. Il y a aussi avec tout ce que ça comprend d'esthétique et de réflexion sur le jeu. Et si le meneur va remplacer ce qui est les règles, ou l'auteur, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est plutôt la mouvance forgienne, il y a aussi tout un tas de choses qui sont prises en compte par la table. Je pense qu'en 75, avant qu'on ait des bouquins d'univers qui fassent 300 pages, avant qu'en gros on ait le modèle RunQuest, l'univers était émergent et les joueurs proposaient aussi leurs trucs. Ne serait-ce que parce que quand ils créaient un personnage, s'il y avait juste le donjon et s'ils décidaient qu'ils étaient un elfe qui était issu de je ne sais pas quel royaume, c'est quelque chose qui s'intégrait dans la narration. Donc on était déjà dans ce qu'on appelle aujourd'hui la narration partagée, mais on était déjà dans quelque chose qui était presque plus important que dans un mode de jeu à la vampire, un spatbook tous les mois et un univers qui est écrit par les auteurs. Donc je ne suis pas d'accord pour opposer l'OSR et d'ailleurs on le voit bien maintenant, The Forge c'est fini, ils ont fermé les... et tous les... Et tous les auteurs se réintéressent justement à ce qu'ils ont peut-être dénigré dans un premier temps en pensant que c'était une espèce de mouvement réactionnaire, alors que c'est très très disparate et qu'il y a, on retrouve d'énormes points communs justement sur... Alors, si on a dit que c'était flou, c'est peut-être parce qu'on est quatre et qu'on aime aussi...
On n'a pas dit que le rôle du meneur était flou. On a dit que le concept de meneur de jeu était un concept flou, comme le concept de chauve. Pour autant, non mais c'est ça. Il ne faut pas confondre un concept flou et des rôles flous. On sait exactement quels sont les rôles du meneur. On peut les lister. On l'a pas fait en détail ici parce que, étant donné que tout le monde avait levé la main sur le, tout le monde a été meneur de jeu. Tout le monde sait à peu près quels sont les rôles. On pourrait les lister. Hein, ce serait assez amusant. Enfin non, pas du tout en fait. Et donc, du coup, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un concept flou. Et c'est ça qu'on a dit. C'est très important ça.
Bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question à vous poser. Ça a été un petit peu effleuré déjà. C'est sur le conditionnement que les joueurs et le meneur jeu aura par rapport au système de jeu. Y a des jeux très très millimétrés, même comme par exemple Donjons et Dragons, tout ça, avec dans les jeux de dés, en fait. Donne au meneur de jeu un peu le rôle qu'a la narration dans un jeu de rôle sur ordinateur. C'est vraiment un aspect mécanique. Il y a aussi par exemple des jeux comme Nobilis qui n'utilisent pas de G2D, donc là qui utilisent des règles d'un autre genre, une autre nature de règles, qui elles justement sont plus larges puisqu'elles sont purement littéraires. Est-ce que ce ne serait pas là-dedans qu'on peut justement trouver une manière pour les joueurs d'être actifs, c'est-à-dire de ne pas dépendre justement d'un concept numérique, mais justement d'être pleinement littéraire, puisque bon, ça reste quand même une approche très littéraire de faire du jeu de rôle, puisque justement on crée du personnage et de la narration. Voilà. J'espère que je suis assez clair dans ce que je vous demande.
Nobilis, j'ai peu pratiqué, donc je peux difficilement... Mais j'ai l'impression que la césure, elle se fait pas tellement entre Nobilis et Donjons et Dragons, parce que finalement c'est une histoire de paramètres. C'est-à-dire l'étendue des paramètres va être plus ou moins importante. Ouais, c'est vrai. la grosse césure, si césure il y a vraiment, c'est entre les jeux qui disent ce qui se passe en fonction du résultat du dé, en gros le résultat de l'action, et les jeux qui vont dire ce qui se raconte en fonction du résultat du dé. Que ça peut être, si le G est raté, c'est toi qui raconte, si le G est réussi, c'est toi qui raconte. Ça, c'est un peu l'extrême, genre les jeux de Sorensen ou des choses comme ça, mais quand on parle de story games, par exemple, qu'on oppose un peu aux jeux traditionnels, la coupure, elle se fait plus à ce niveau-là qu'en termes de paramètres. Et je ne sais pas si on peut parler de jeux plus littéraires que d'autres. Je pense qu'il y a plein de joueurs de Donjons et Dragons qui ont l'impression... Enfin, si on prend Tolkien comme un compte-rendu de partie, c'est un compte-rendu de partie de Donjons et Dragons, on retourne un peu les choses, ça reste assez littéraire.
Non, mais moi ce que je voulais dire, c'est que justement quand on utilise un système, alors j'ai pris Donjons et Dragons comme exemple, parce que c'est un système qui a très bien fonctionné et qui utilisait beaucoup justement les chiffres, c'est que justement là le meneur de jeu a... la même fonction qu'un ordinateur, c'est compiler les chiffres et établir ce que ça peut signifier en résultat à l'écran. C'est un peu une simulation justement de jeu de rôle sur ordinateur. Évidemment, là, je fais ça très grossièrement, hein, c'est vraiment un exemple. Tandis que justement, si on est affranchi de l'idée de chiffres, justement, on est obligé de passer par un autre biais, qui est justement un biais plus souple, j'allais dire flou, mais non, c'est plus souple, qui est justement celui du mot, parce qu'un chiffre est défini, 1 est égal à 1, 2 est égal à 2. Par contre, amour, ça peut être égal à amitié, ça peut être égal à amour paternel, maternel, ou amour, par exemple, entre deux amants. Mais dans tous les cas, c'est de l'amour, c'est du lien positif qui est créé entre deux personnages.
Ouais, je pense qu'effectivement, donc... on pouvait à un moment estimer, alors c'est le cas souvent dans les combats d'ailleurs, dans les jeux traditionnels, effectivement on peut comparer le rôle du MJ à une espèce d'ordinateur. C'est peut-être d'ailleurs pas pour rien qu'on a vu autant de jeux basés sur Donjons et Dragons et que peut-être que beaucoup de joueurs de jeux de rôle se sont tournés plutôt vers jeux vidéo qui leur offraient quelque chose de plus instantané et plus visuel. Mais c'est pas parce que après on passe par des mots que ça doit forcément passer par une espèce d'arbitraire du MJ, par exemple. On peut, par exemple, on a Apocalypse World qui offre pour chaque type de, d'action un certain nombre de réponses possibles. Le MJ, là, du coup, je crois que c'est même pas lui de choisir finalement, ou alors c'est soit lui de choisir, soit c'est au joueur, mais finalement il y a le système qui lui dit voilà, en gros, dans telle situation, si le joueur fait tel jet, alors vous avez le choix entre ça, ça et ça. C'est encore des contraintes, on parlait de liberté sous contrainte, voilà, il y a ça. On pourrait imaginer un autre système où c'est carrément chaque joueur à la table propose une issue à l'action et après on vote. Après tout, là, il n'y a même pas besoin d'OMJ.
Et après, cette histoire de résultats chiffrés et de meneur qui va être juste une grille de réponse, en fait, c'est quasiment un abus de jeu. Dans l'absolu, il n'y a rien qui empêche, dans Donjons et Dragons, que le joueur fasse le jet et qu'en fonction de s'il a réussi ou échoué, c'est lui qui décrive ce qui se passe. Et c'est pas moins littéraire, au contraire, pour le coup on apporte quelque chose de littéraire en chiffré, c'est-à-dire qu'il a une donnée précise, fixe, chiffrée qui lui dit t'as réussi ou t'as échoué, mais c'est pas pour autant que c'est le meneur qui va décrire systématiquement ce qui se passe en réaction. On peut donner ce pouvoir-là au joueur parce qu'après tout c'est l'action de son personnage et ça change tout un tas de choses dans la façon de jouer, parce que du coup si le joueur commence à définir comment il rate, comment il réussit une fois qu'il sait s'il a raté ou réussi, on donne quelque chose de plus littéraire parce qu'il a plus de contrôle sur ce qu'il fait et sur comment son personnage vit, ça peut donner quelque chose de plus grandiloquent aussi potentiellement, et il ne s'agit pas là de choisir des mots ou des chiffres, c'est juste de choisir à un moment comment est-ce qu'on va aborder les choses pour donner l'occasion aux gens qui jouent de raconter des trucs.
Il y a trop de choses à dire, c'est quasiment un sujet de conférence. En fait, le truc, l'essentiel qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un jeu vidéo, l'ensemble des propositions est faite en amont par des développeurs, des codeurs. Alors que dans le jeu de rôle, les propositions sont faites sur le pouce pendant la partie. Et un ordinateur ne peut pas faire de propositions, c'est pas possible. Un codeur peut faire des propositions, alors, d'accord. Voilà. Vas-y.
Non, mais là, c'est justement, c'est sur ce point-là que vous aviez commencé à effleurer lors de votre débat la question. C'est que justement, un codeur qui crée un jeu de vidéo ou un auteur qui codifie son monde et sa mécanique de jeu, là aussi justement,
les parallèles sont très restreints parce qu'en fait l'auteur, si tu veux, l'auteur de jeu de rôle, il crée les conditions pour d'une métafiction, c'est-à-dire d'une réflexion autour d'une fiction. C'est Vivien qui le définit comme ça, et je trouve ça très juste. C'est-à-dire que son travail il organise une conversation qui sera métafictionnelle au sens où elle va générer de la fiction. Alors que le codeur, lui, il prépare les propositions. Il ne propose pas aux gens de faire des propositions.
Il y a aussi les moteurs qu'on peut trafiquer. Qu'on peut,
tout à fait. Voilà. Et tu vois, c'est
ou
là
encore
que
la génération aléatoire.
Le jeu vidéo et le jeu de rôle, moi j'en suis sûr, vont finir tôt ou tard et sont peut-être même déjà en train de se rejoindre. Mais dans les années où tu en parlais, c'est-à-dire pendant la création de D&D, là je ne peux qu'être pas d'accord avec toi. Mais par contre, à l'avenir, on pourra rediscuter, on fait ce débat dans 20 ans et je suis sûr que c'est certain qu'on sera d'accord.
Rendez-vous pris.
Ouais, je voulais juste, j'ai un peu oublié, se rebondir sur cette idée de quand on réussit, le joueur peut décrire. Moi, c'est un point qui me paraît extrêmement important en tant que MJ ou joueur, c'est que j'ai besoin, en tant que joueur, pour que mon personnage existe et donc pour prendre du plaisir, d'avoir un espace de créativité. C'est-à-dire que si mon seul rôle dans la partie consiste à dire j'essaye de faire ça et ensuite le système et le MJ me disent oui, non, et ensuite le MJ me décrit comment mon action réussit ou me décrit comment mon action échoue, je ne joue pas, je ne prends pas de plaisir. Ça, c'est un des points qui me paraissent essentiels et sur lesquels je suis extrêmement crispé et crispable en termes de partie. C'est-à-dire que quand je suis face à un MJ animateur qui met en scène ce que je fais en tant que joueur, je finis invariablement par avoir qu'une envie, c'est de me barrer de la table parce que j'ai l'impression d'être là, de fournir un peu de fuel à quelqu'un qui est là pour m'amuser, quoi. Et je ne m'amuse pas du tout, en fait.
Bon, malheureusement, on va devoir céder la place. Je vous invite à en discuter avec eux là-bas. Alors peut-être juste une dernière question. Est-ce que vous êtes prêt à changer de paradigme, Vivien, un jeu avec MJ, les autres, un jeu sans MJ en un mot ?
Je suis en train de préparer un jeu avec MJ. Ah. Donc oui, j'ai déjà vendu mon âme au diable, mais ce ne sera pas pareil.
Merci à tous.